Bonjour à tous, c'est un secret d'info spécial que nous vous proposons aujourd'hui pour prolonger l'actualité. Pas d'enquête, mais trois invités, tous spécialistes des services secrets. Avec eux, nous allons essayer de comprendre comment Vladimir Poutine s'est forgé sa vision du monde alors qu'il travaillait pour le KGB et comment il vit aujourd'hui en vase clos avec les responsables de ses services, des responsables qui apparemment lui sont inféodés et qui fausseraient sa vision de la réalité.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Je jure, dans l'exercice des fonctions de président de la Fédération de Russie, de respecter et de protéger les droits et les libertés de l'homme et du citoyen.
Voilà un extrait d'un documentaire britannique qui était réalisé par Nick Green, dans lequel on entend Vladimir Poutine promettant de défendre les droits de l'homme, une déclaration aux antipodes de l'histoire que nous voyons s'écrire en direct et en contradiction totale avec l'homme que l'on connaît aujourd'hui. Mais pour comprendre ce qui se passe en Ukraine, eh bien il faut comprendre aussi celui qui en est l'instigateur. Et pour ça, il faut revenir sur son rapport aux services secrets. Alors pour en parler avec nous, nous recevons Sergueï Girnov. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un ex-espion russe du KGB. Vous avez publié cette semaine un livre qui s'appelle « L'éclaireur » et dans lequel vous racontez notamment comment vous avez infiltré l'ENA et même rencontré et rédigé une fiche d'ailleurs sur Valérie Pécresse. On en parlera dans une deuxième partie, mais dans un premier temps, votre connaissance des services secrets russes va nous être très utile. Rémi Koffer, vous êtes l'auteur des grandes affaires des services secrets aux éditions Perrin. Merci d'être avec nous également.
Bonjour.
Et puis nous recevrons en duplex de France Bleu Nord à Lille, Andrei Kozovoy, auteur des services secrets russes des tsars à Poutine. Bonjour Andrei Kozovoy.
Bonjour.
Et on va donc commencer avec vous, Sergueï Girnov, pour que vous nous parliez d'abord de votre première rencontre avec Vladimir Poutine, parce que ça remonte à 80. À ce moment-là, il y a les Jeux Olympiques à Moscou, et ça se passe pas très bien. Racontez-nous ce qui s'est passé précisément.
Oui, c'était un très mauvais souvenir. En 1980, on a des Jeux Olympiques pour la première fois. La Russie, l'Union soviétique obtient ces Jeux en été, les Jeux d'été. Et on nous a réquisitionnés pour travailler dans un central de renseignement téléphonique en plusieurs langues. Donc pour moi, c'était le français. Donc nous, on s'embêtait pendant deux semaines, et puis il y a un coup de téléphone qui passe, il y a un Français qui était juste curieux, il a trouvé notre numéro de téléphone dans un guide, et donc il nous appelle, tombe sur moi, et quand j'ai décroché, enfin ce Français m'a proposé de prendre un pot déjà dans la rue, je lui ai dit que ma mère était malade et je devais la visiter dans l'hôpital, une légende bien apprise parce qu'on nous interdisait d'avoir des contacts. Donc il y a la directrice des renseignements téléphoniques qui me convoque dans son bureau, et dans son bureau il y a un petit bonhomme, il me fait subir un interrogatoire. Et bien évidemment il se présente capitaine Poutine. Donc il m'a subi un interrogatoire à la stalinienne, en m'accusant quasiment d'avoir trahi la mère patrie, d'être un espion au solde des Français. Mais moi, j'étais un étudiant de MGIMO. MGIMO, c'est la meilleure école de l'Union soviétique. Donc, j'avais le petit-fils de Brejnev qui faisait les études avec moi.
Et ça aide.
Et à un moment donné, moi, j'ai eu marre de cet interrogatoire. Et je l'ai provoqué, en fait. J'avais du culot. Je lui ai sorti il ressemblait à un juge d'instruction, Khvat, dans le roman de Solzhenitsyn, l'archipel de Goulag. Il a sauté de joie parce que l'archipel de Goulag était un livre interdit. Et donc, il m'a dit, qui vous a filé ce livre? Et je lui ai dit André Brejnev. Oh. Il a dit Brejnev, oui, le petit-fils du secrétaire général du parti. Et donc, c'était fini, terminé. Voilà, il m'a relâché tout de suite.
Alors, on avance 1984. Là, vous êtes camarade de classe de Vladimir Poutine parce que vous allez vous former à l'école de l'espionnage,
ouais,
dans ce qu'on appelle l'école de la forêt.
C'est
dans
ça.
Laquelle se trouvait aussi Vladimir Poutine au même moment. Alors, racontez-nous, c'est quoi l'école de la forêt?
L'école de la forêt, c'est une institution supérieure, c'est une université autour de Moscou, dans les forêts, d'où le nom. Poutine était envoyé de Leningrad, il avait déjà 9 ans de service au KGB. Donc il n'avait pas besoin de passer beaucoup de temps dans cette école. Donc on l'a envoyé à Balashikha, à la faculté d'un an. Donc on s'est croisé juste sur le parking le 29 août 1984, le parking du grand stade Loujniki. On a réuni toute la promotion avant de nous mettre dans les bus et de nous dispatcher entre les différentes facultés.
Et qu'est-ce qu'on apprend dans cette école qui peut expliquer la vision du monde? C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais les services secrets aussi ont forgé sa vision du monde. On le verra notamment quand il ira à Dresde, on en parlera plus tard. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il apprend qui explique ses ressorts actuels?
Alors déjà, il a appris ça bien avant. Comme je vous ai dit, il a passé déjà 9 ans au sein du KGB. Et la principale chose qui nous intéresse dans cette histoire, c'est que le KGB, c'est le bras armé du Parti communiste de l'Union soviétique. Donc c'est un service idéologique. Contrairement, par exemple, à la DGSE, et l'Union soviétique se faisait la tâche de conquérir le monde dans la révolution mondiale. Faut pas oublier ça. Et donc, on nous apprend que le monde est partagé entre les bons, c'est nous, et face à nous, il y a le reste du monde qui sont les imbéciles, les mauvais, les méchants, parce qu'ils sont capitalistes, et ce sont les exploiteurs qui exploitent, en fait, les ouvriers.
Alors, en 1985, je parlais de Dresde, il est affecté au service de contre-espionnage, donc en Allemagne de l'Est. On le connaît, Vladimir Poutine, à ce moment-là, sous le nom de l'officier Platov. Alors, je me retourne vers vous, Andrei Kozovoy. Il va devenir lieutenant-colonel. Quels sont les éléments fondateurs dans cette période-là, qui expliquent encore ce qu'est le personnage aujourd'hui? Je pense... Alors c'est plus tard, en 89, mais à la chute du mur de Berlin, parce qu'il va assister à tout ça.
Oui, en effet. Alors là, on a bien entendu que Vladimir Poutine, qui avait eu une vocation précoce, il va connaître une carrière bon, qui va avoir du mal à décoller. Lui, son rêve, bien sûr, qu'il avait nourri depuis sa plus tendre enfance, enfin depuis son adolescence plutôt, c'était de devenir agent secret à l'étranger, un peu le James Bond soviétique.
Il paraît qu'il était fasciné par Stirlitz, le personnage de Stirlitz, qui est une espèce de James Bond russe, de la littérature russe aussi.
Effectivement.
Et du cinéma, oui, ensuite ça a donné une série.
Voilà, c'est quelqu'un qui, comme beaucoup de jeunes à l'époque, qui est fasciné par ce monde secret de l'espionnage. Il faut savoir que donc dans les années 60, et surtout à partir de 1967, quand vous avez Andropov qui arrive au pouvoir, le KGB va collaborer avec des studios, avec des écrivains, et alors surtout avec Andropov, pour publier des livres à la gloire des services secrets. On va les présenter comme les héros de l'ombre. Il y aura toute une série de livres qui vont traiter de la grande guerre patriotique, c'est-à-dire la guerre 41-45, avec le rôle essentiel de ces agents secrets. Vous avez mentionné Stirlitz. Alors, on raconte que le grand Brejnev, Léonid Brejnev, n'est-ce pas le dirigeant de l'URSS entre 64 et 82, il a tellement été impressionné par ce téléfilm sur Stirlitz qu'il a vraiment cru que Stirlitz avait existé. Il avait demandé qu'on remette, n'est-ce pas, la plus grosse haute récompense à ce personnage. On lui avait dit non, il n'existe pas. Alors c'est l'acteur qui l'avait joué, qui l'avait finalement reçu.
Ouais. Rémy Koffer, est-ce que ça veut dire que Vladimir Poutine vivrait aussi dans un monde fantasmé?
C'est pas une vision fantasmée. À l'époque, le KGB a pouvoir considérable sur la société soviétique. En ce qui concerne Poutine, il a atteint le grade de lieutenant-colonel. Vous me confirmerez que c'est pas extraordinaire.
Non.
On commence à devenir à quelqu'un d'important quand on est colonel plein, comme on dit dans l'armée, ou général après, etc. Donc il a pas non plus un niveau extrêmement élevé. A-t-il été associé à l'opération qui a été montée à la demande de Gorbatchev pour liquider la vieille garde néo-stalinienne de RDA et mettre à la place le poulain des soviétiques qui était Hans Modrow? Je ne sais pas,
je vois Sergueï Jirnov qui réagit.
En RDA, excusez-moi, Poutine, d'abord il a raté sa carrière dans l'espionnage, il faudra on va revenir parce que ça
explique aussi peut-être
ce désir
de toute puissance justement.
Ça en dit long déjà de sa rancune y compris pour le service d'espionnage. Si vous avez vu comment il a traité Narychkin, ça explique
on
aussi
en
ça.
Tout à l'heure.
Et donc en RDA, il était dans la représentation, il y avait une représentation officielle du KGB auprès de la Stasi qui était à Berlin, enfin dans la banlieue de Berlin. C'était une grosse direction générale, conduite par un général 3 étoiles. Mais lui, il a été envoyé à Dresde dans un tout petit machin. Ils étaient 5, ils habitaient dans un immeuble de Stasi. Et donc, en fait, il faisait officier de liaison. Vous avez parlé de contre-espionnage.
C'est frustrant.
C'est frustrant. Mais il était content, hein. Il était content parce qu'il était en RDA.
Il est à l'extérieur.
Il est à l'extérieur. On parlait allemand. Il a réussi quand même à gagner un peu d'argent, à ramener une belle Volga, après. Donc, non, c'était pas une frustration. La frustration, c'était quand le mur est tombé et quand les foules se sont amassées devant cet immeuble de la Stasi et il a cru qu'on allait le zigouiller, qu'on allait le pendre, comme ça s'est passé pour certains en 56 en Hongrie ou en 68 en Tchécoslovaquie.
Ah non, on n'a pas pendu en Tchécoslovaquie.
Alors, messieurs, je vous propose d'avancer. On a donc parlé de Vladimir Poutine au KGB dans sa première période. Ensuite, il va y avoir une deuxième période, c'est à Saint-Pétersbourg, où il sera conseiller du maire, puis adjoint au maire, où vous racontez d'ailleurs, Sergueï Girnov, dans votre livre, que c'est là qu'il expérimente ce qu'est la corruption et qu'il la met lui-même en application. Et puis, en 98, il est nommé par Yeltsin 13 mois à la direction du FSB. Alors, Andrei Kozhevoï, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là?
Alors, il faut savoir que donc il a eu cette carrière à Saint-Pétersbourg et il s'est en quelque sorte racheté une conduite à ce moment-là, même s'il y a eu au moins un article publié à ce moment-là sur lui, comme quoi il y a eu une affaire donc où il se serait enrichi grâce à un trafic de ressources,
des convois humanitaires,
dont il aurait profité. Mais il a une bonne réputation, si vous voulez, quand il arrive dans l'administration présidentielle après Saint-Pétersbourg, donc il arrive en 96 à Moscou. Yeltsin en a besoin, hein, il a besoin cruellement d'hommes à qui il peut se fier, et donc Poutine, il le voit comme quelqu'un qui est fiable et qu'il va donc nommer à la tête du FSB. Pour situer un petit peu le FSB, c'est pas exactement l'héritier du KGB, parce qu'on le présente souvent comme ça. Hein, le KGB, c'était une immense machine tentaculaire avec, comme on l'a dit tout à l'heure, plusieurs directions principales. Bref, il a besoin d'un homme fiable, Yeltsin, et Poutine va lui rendre service, notamment, il va y avoir une affaire de sextape concernant un procureur qui cause bien du tort à Yeltsin, qui s'appelle Skouratov. Et à ce moment-là, Poutine va cautionner cette vidéo, où l'on voit donc un procureur en compagnie de prostituées dans un sauna appartenant à un groupe mafieux. Il s'agit de faire tomber cet ennemi de Yeltsin et il lui sert de caution à ce moment-là, Poutine.
Rémy Kofer, juste Sergueï Girnov d'abord, parce que vous avez réagi quand Andrei Kozhevoï a parlé de cette affaire de sex tape.
Parce qu'André a parlé de cautionner, moi je dis il a organisé cette tape.
Rémy Kofer.
C'est une technique soviétique ancienne. Bah oui. La glace sans teint, on finit la
tordu,
glace sans teint.
C'est un coup tordu.
Ils étaient habitués. Ouais. Ce qu'il faut dire aussi quand vous passez parler du FSB, c'est précisément qu'il y a eu un début de révolution sous Boris Yeltsin, c'est-à-dire qu'on a découplé le service secret, le SVR, qui est l'équivalent de la CIA ou de la DGSE, si vous voulez. On l'a découplé de la partie police politique du KGB pour créer justement le FSB.
Un peu comme en France, la DGSI, la DGSE.
Alors ce qu'on peut dire, alors ce qui est assez curieux, qui pourrait aller dans le sens de ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire de frustration de Poutine. Il y a une curieuse rumeur qui s'est répandue il y a à partir de 3-4 ans, à partir des ambassades russes, par des quarts de confidence, des demi-confidences à des journalistes ou à des gens de diplomates russes qui n'étaient pas forcément de haut niveau, et qui disaient, voilà, en réalité, Poutine a un secret, et le secret de Poutine, c'est que c'est le fils d'un grand opérationnel, c'est évidemment une rumeur, c'est le fils d'un agent, d'un grand opérationnel des services.
Comme toute rumeur, on ne la traitera pas comme une information. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'elle dit, cette rumeur.
Ce qu'elle dit, ce serait, c'est pas cette rumeur, qui est visiblement organisée.
Il est en train de construire sa légende, c'est ça.
Voilà, il serait en réalité le fils d'un agent décédé, un grand agent décédé tragiquement, qui aurait été adopté par une famille. Ouais, bon. Donc, on fabrique
une légende.
La statue de héros. D'accord. Attention, il a un grand secret, c'est le fils d'un grand
D'accord.
héros.
D'accord. Et Sergueï Girnov, qui au début hochait de la tête en disant non, finalement dit oui. Il construit sa légende, même si la rumeur elle-même, on ne l'accrédite
mais
pas.
Mais de toute façon, sans même mentionner cette rumeur, en 2000, Poutine sort un livre dans lequel déjà on lui a construit cette légende de grand espion.
La lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la corruption et la contrebande exigent des critères moraux élevés.
Voilà, autre extrait d'une déclaration de Vladimir Poutine, dont on se dit alors qu'il va lutter contre la corruption au FSB. On a vu le résultat, on en a parlé. Alors maintenant, on va voir comment le FSB s'est comporté ces dernières années, sous l'autorité cette fois-ci de Poutine. Alors, dans l'histoire récente, il y a eu plusieurs affaires criminelles, disons les choses, qui ont impliqué les services secrets russes. D'abord l'affaire Litvinenko à Londres, en 2006. Alexandre Litvinenko, c'était un ancien membre d'ailleurs du FSB. Il rencontre un ex-collègue du FSB à Londres. Ils boivent le thé ensemble dans un hôtel. Et puis il va tomber, voilà, il va tomber malade, et puis il va mourir, et on découvrira donc quelques jours après qu'il tombe malade qu'il avait absorbé du polonium 210, qui est une substance qu'on trouve notamment dans des laboratoires en Russie. Sergueï Zhirinov, j'imagine qu'à l'époque vous n'avez pas été surpris, non?
Je n'ai pas été surpris, et d'ailleurs quand vous avez parlé de la première affaire c'est pas ça. Quand Poutine est nommé en août 1999 premier ministre par Yeltsin, curieusement, un mois après, on commence à avoir 3 attentats. Et en fait, le 4e attentat, on a pris la main dans le sac, les agents du FSB. Et Litvinenko, quand il est parti à Londres, il a écrit un livre avec Felchinsky, FSB fait sauter la Russie. Mmh. Et c'est à cause de ça que Poutine le tue. Et en plus, parce que il a travaillé aussi avec l'oligarque Berezovsky, et que Poutine lui aurait commandé l'assassinat de Berezovsky, et qu'ils ont refusé de le faire.
Berezovsky, qui est un oligarque qui vivait à Londres, et dont Litvinenko était l'assistant.
Et d'ailleurs, ils étaient dans l'équipe de tueurs avec Lugov. C'est pour ça d'ailleurs que Litvinenko...
Alors Lugovoy, c'est le fameux russe qui est soupçonné d'avoir versé le polonium dans le thé.
C'est pour ça que Lugovoy a eu la possibilité de le tuer, parce que Litvinenko le croyait ami et collègue. Et Lugovoy, une fois lorsqu'il a fait ça, il est reparti en Russie, et depuis il est député de la Douma déjà 4 ou 5 fois.
Un mot à ce sujet encore, Sergueï Zhirinov. Oui. Vous-même, vous dites avoir été victime d'une tentative d'empoisonnement, vous le pensez?
Disons que on peut jamais affirmer à 100%. Vous savez, c'est dans les vrais services d'espionnage, les vrais assassinats sont fabriqués de telle façon qu'on peut accuser personne. Mais au début de 2001, j'ai été victime pendant un mois et demi d'une maladie auquel on trouvait aucune raison ni cause technique biologique. Et après un mois, j'ai eu une amie médecin qui m'a dit ça ressemble fortement à un empoisonnement avec les métaux lourds. Et je lui ai demandé de rentrer chez elle, de me téléphoner par mon téléphone qui était sur écoute, et de répéter ça au téléphone. Et de me dire, écoute, t'as des relations dans l'ambassade de France à Moscou, fais-toi examiner par le médecin de l'ambassade, et voire même, fais-toi analyser ton sang et tes matières biologiques à l'étranger, voire en Suisse, en France. Ce qui fait que 24 heures après, j'étais guéri.
Donc vous sous-entendez que... Donc on vous a entendu, on a eu peur qu'il y ait des analyses qui soient faites et qu'on démasque votre éventuel empoisonnement.
J'ai misé là-dessus, et je crois que mon raisonnement était bon.
Alors il y a eu justement, il y a eu d'autres précédents très récents, il y a eu l'affaire Skripal, toujours dans la banlieue de Londres cette fois-ci. Andrei Kozovoy, l'affaire Skripal, elle est assez étonnante parce qu'on se dit soit on a eu affaire à des pieds nickelés, soit au contraire, quelque part Poutine voulait que ça se sache, quoi.
Et sans doute un peu des deux, hein, comme on dit mon capitaine. Ce qu'il faut savoir sur Skripal...
On va rappeler en deux mots, hein, Skripal.
Oui. Skripal, c'est un ancien officier des services militaires du renseignement. Et c'est un agent double, Skripal. Oui. Il avait été arrêté, il avait fait un peu de prison. C'en était à l'époque de Medvedev, donc la grande amitié entre la Russie et les États-Unis s'était repartie. Et en 2010, il avait donc été échangé. En 2010, on l'avait échangé dans la pure tradition des échanges de la guerre froide. Et voilà que en 2018, il se retrouve empoisonné, lui et sa fille, à Salisbury, donc au sud de Londres, par un poison dont on avait un petit peu entendu parler avant, mais pas tant que ça, et qu'on va bientôt découvrir sous le nom de Novichok. Et je le rappelle, Novichok signifie en russe « le petit nouveau ».
La question qui se pose derrière ça, c'est est-ce que ça se fait forcément, tout ce qu'on vient de raconter, mais il y a eu Navalny aussi, hein, qui a été victime d'une tentative d'empoisonnement. Ouais. Voilà. Est-ce que tout ça se fait forcément avec l'aval de Poutine, ou est-ce qu'il est possible qu'il y ait du zèle de la part des services, des dérapages, voire d'autres instigateurs qui veulent régler des comptes?
Non, ça franchement, je ne le crois pas. Il n'y a pas une telle indépendance des services. Ils peuvent avoir une indépendance opérationnelle. On peut leur dire, vous chargez de ça à votre guise, mais vous chargez ça sur ordre. Je ne vois pas des gens agir comme ça, selon leur truc. Non, ça, après, je ne crois pas beaucoup.
Donc, il y a un ordre donné.
Il n'y a pas un ordre signé, hein. On est bien d'accord. C'est un ordre peut-être exprimé. Vous savez, Poutine, peut-être, a dit quelque chose que les gens autour de lui auraient compris comme un ordre. Mais de toute façon, ça ne peut pas se faire sans son aval.
Il est parti souvent, de toute façon, publiquement, à dénoncer les traîtres, à dire que le châtiment attendait les traîtres. Et là, le but de l'opération, Sergueï Skripal, c'est même des années après, on viendra te chercher, pas te buter dans les chiottes comme les Tchétchènes, mais on viendra te buter où que tu sois, même si t'es à Salisbury, en cheville vaguement avec le MI6, c'était les services britanniques, mais pour leur donner deux, trois petites indications anciennes. Donc il ne faut plus rien en termes de renseignements, mais on va le tuer quand même.
Proposez-vous d'entamer un processus de négociation? Ou de reconnaître la souveraineté des républiques?
Oui, je soutiendrai.
Parlez sans détour, enfin.
Je soutiens la proposition d'unir les républiques populaires de Donetsk et de Luhansk à la Fédération de Russie.
Mais on ne parle pas de ça. On parle de reconnaître ou non leur indépendance.
Oui, je soutiens la proposition de reconnaître leur indépendance.
Voilà, c'était le chef du renseignement extérieur de Poutine, Sergueï Narychkine, dont on parlait, qu'on a déjà évoqué il y a quelques instants, qui était humilié devant les caméras. Ça, c'était lundi dernier. Et ça nous amène donc cette fois-ci à l'actualité. Andrei Kossovoï, la question, c'est effectivement de savoir si, à un moment donné, ses services ne lui cachent pas ce qu'est la réalité du terrain.
Oui, c'est une question très importante. D'ailleurs, je l'ai évoqué récemment dans la nouvelle préface qui va sortir avec la réédition des services secrets russes chez Talendier. C'est est-ce qu'il serait pas un peu victime d'un syndrome assez courant finalement chez les chefs d'État? Voilà, j'ai pensé à Staline, bien sûr, parce que il y a ce fameux précédent de Staline recevant de ses innombrables agents de par le monde en 1941 des informations selon lesquelles Hitler allait violer le pacte de non-agression et certains lui donnaient même le jour et l'heure de cette offensive, l'opération Barbarossa, et Staline refusant d'entendre envers et contre tout ces informations, accusant ses agents de provocation. Richard Sorgue, le plus connu d'entre eux donc au Japon, pareil, s'était fait insulter, menacer, etc. Et puis voilà.
Il a payé de sa vie.
Il l'a payé de sa vie, bien sûr.
Attendez, Rémi Kofer va le faire dans l'ordre.
Trop vite.
Sergueï Zhirinov, vous qui connaissez bien les services secrets russes de l'intérieur, et pour cause, vous y étiez, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les services secrets ne sont que la voix de son maître ?
Absolument. Ça, on l'a vécu déjà. Je dois vous dire que déjà de mon époque, je savais très très bien qu'il fallait présenter au bureau politique et au comité central ce qu'ils voulaient entendre. Donc de toute façon, ça devient tout le temps une bulle. Et Poutine, vous avez vu, est-ce que Narychkine, qui l'a traité comme ça, vous pouvez imaginer que ça se passe tous les jours comme ça. Donc est-ce que vous croyez que Narychkine lui apportait une vérité qui lui déplaît par rapport à toutes les divagations qu'il a dans sa tête? Mais bien sûr qu'il lui présente ce que Poutine, uniquement l'information que Poutine veut entendre de lui.
Mais pardonnez-moi, je vais pas me faire l'avocat du diable, mais est-ce que c'est spécifique à Vladimir Poutine? Enfin, on se souvient effectivement de la guerre en Irak. George Bush ne voulait pas entendre parler, Rémi Kofer, qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive.
Exactement. Le patron de la CIA de l'époque a effectivement abondé dans son sens avec une phrase qui est assez remarquable à propos d'uranium qui aurait été récupéré au Niger. Alors la DGSE française disait non, c'est pas vrai, etc. Le patron de la CIA a cette phrase ahurissante pour un chef de service secret. Il dit, c'est probable, si c'est probable, c'est certain.
Andrei Kossovoï, avant de conclure cette première partie, est-ce que tout ce qu'on vient de raconter n'explique pas finalement une erreur de jugement? C'est-à-dire que le renseignement, c'est fait aussi pour éclairer le politique. Si on donne des renseignements qui ne sont pas conformes à la réalité, on fausse cette réalité. Là, en l'occurrence, est-ce que Vladimir Poutine n'a pas mésestimé la réaction de la communauté internationale, n'a pas mésestimé la résistance du peuple ukrainien? Est-ce que ce mode de fonctionnement n'explique pas aussi ce à quoi on assiste aujourd'hui?
Je pense absolument qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Il y a eu une erreur qui a d'abord consisté à surestimer son potentiel de frappe. il n'y a pas eu d'effet de surprise. Il y a eu, ça on n'en parle pas assez, chez Poutine, un mépris total des Ukrainiens et donc une tendance à les sous-estimer complètement. Et ça, il est encore une fois victime de sa vision du monde complètement conspirationniste et paranoïaque. Il s'est persuadé que la guerre psychologique aura un effet sur les esprits. Il faut se souvenir qu'il a demandé donc aux soldats ukrainiens de rendre les armes au début de l'offensive en disant qu'ils n'avaient aucune chance. Et je rappelle aussi quelque chose qui avait peut-être échappé à pas mal de commentateurs. Dès le deuxième jour de l'offensive, le 26 février, vous avez l'agence de presse RIA Novosti qui avait annoncé par erreur que l'Ukraine était désormais dans le giron de la Russie. Et ils avaient rapidement effacé cette information, ils étaient allés plus vite que la musique. Et on se souvient aussi du précédent de l'Afghanistan à cet égard-là, que Brejnev s'était fait convaincre par la fameuse Troïka, Andropov, dirigeant du KGB, Gromyko, ministre des Affaires étrangères, et Ustinov, ministre de la Défense. Il s'était fait convaincre par le fait que c'était une opération de police qui n'allait pas prendre plus de quelques semaines. Voilà, et on connaît le résultat.
Bien, ben on va vous libérer, Andrei Kozovoy. Merci beaucoup d'avoir participé à cet échange. Merci également à vous, Rémi Koffer. Merci également à France Bleu Nord qui nous a permis d'assurer la liaison technique avec Andrei Kozovoy. Sergueï Girnov, vous restez avec nous. Hein. Dans une deuxième partie, vous allez nous raconter votre histoire et notamment comment vous avez infiltré la prestigieuse ENA et rencontré Valérie Pécresse alors qu'elle était en stage à Moscou. Why you always doing that? Breaking up with me, then making up just to make me mad. I think that you taste like rock candy, sweet like peaches, leave me all sandy. Why do you leave me with water? Éthéré et envoûtant, c'était la voix de la chanteuse américaine Lana Del Rey dans son dernier opus, Watercolor Eyes, une chanson qui a été écrite pour le générique de la deuxième saison de la série Euphoria.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et on retrouve Sergueï Girnov, ex-espion du KGB, qui a donc publié cette semaine L'Éclaireur. Alors, parmi vos exploits en France, Sergueï Girnov, vous avez notamment infiltré l'ENA, l'École Nationale d'Administration. Alors, expliquez-nous comment vous y êtes pris.
À cette époque-là, je travaillais dans la direction S, la direction des illégaux, des clandestins. Et donc, j'ai trouvé un moyen pour me faire détacher sur mon pays de rêve, la France. parce que j'avais comme couverture une émission télévisuelle sur la langue française et la culture française. Ils ont dit l'ambassade française est suffisamment couverte par d'autres services, donc nous c'est l'extérieur, donc vas-y dans le pays et trouve-nous quelque chose d'intéressant. Sous cette couverture de journaliste télévisuel, je viens à Paris et je fais le tour de toutes les institutions françaises, Élysée, Matignon, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, etc., etc., Quai d'Orsay, Beauvau, etc. Et je leur raconte, je vais faire des reportages sur vous et il y a l'ENA, qui dépend du service du Premier ministre et qui fabrique les hauts fonctionnaires qui deviennent, pour certains, ministres, voire même les présidents. À l'époque, il y en avait deux, maintenant il y en a quatre. Et donc, je viens à l'ENA, je prends contact avec eux, en disant, voilà, je suis journaliste, je voudrais faire un reportage sur vous.
Et l'entretien se passe bien, et ils vous proposent de candidater à la filière extérieure de l'ENA.
Absolument, on me déroule le tapis rouge, il faut bien dire qu'à cette époque-là, c'est Gorbimania, en fait, c'est Perestroïka en Union soviétique, c'est le changement complètement de paradigme au Est-Ouest, il n'y a plus la guerre froide, enfin, on est reçu partout, à bras ouverts, et donc, à la fin de cet entretien, ils me proposent carrément d'entrée dans l'ENA. Vous imaginez qu'à l'intérieur de moi-même, c'était un enthousiasme à 200%, et vous imaginez après les têtes de mes généraux quand ils ont appris ça. Donc tout ça marche très bien. Mais l'école dit que nous avons une stagiaire de l'ENA actuellement à Moscou. Donc quand vous rentrez à Moscou, on va vous demander de vous rencontrer, juste parce qu'elle pourra peut-être être votre...
Et c'est Valérie Pécresse.
Et elle ne s'appelait pas Pécresse, c'est Valérie Roux. Elle n'était pas mariée avec M. Pécresse à cette époque-là. Donc je reçois un coup de téléphone de Valérie Roux, qui était stagiaire de l'ENA. Elle me propose de se rencontrer. On se rencontre deux ou trois fois. Et donc, elle cautionne parfaitement mon entrée dans cette école, parce que, bien évidemment, j'ai une légende qui est béton, parce que j'ai une vraie émission qui fonctionne depuis des années. Et donc là, c'était 9 ans déjà que j'avais cette couverture. Donc, elle me voit, bien évidemment, à la télévision 2 fois par semaine. Donc, elle confirme, effectivement, je le vois à l'antenne, etc.
Mais alors, la question qu'on se pose en vous lisant, c'est tout ça a servi à quoi? Enfin, sur Valérie Pécresse, vous expliquez que vous avez rédigé une fiche.
Oui.
Mais quel intérêt pour les services secrets russes d'avoir une fiche sur Valérie Pécresse, qui est stagiaire à l'époque à l'ambassade de France? Et quand vous êtes à l'ENA, on se pose la question aussi, on se dit finalement, qu'est-ce qui, dans votre formation à l'ENA, a pu intéresser ou quels renseignements vous avez pu fournir aux Russes?
L'ENA, il faut comprendre que c'est la pépinière des hauts fonctionnaires français. Toutes les personnes qui passent par l'ENA vont devenir tôt ou tard les décideurs dans le système administratif français, dans différents ministères, dont les ministères clés pour nous, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur.
Mais est-ce que concrètement, il y a des gens que vous avez rencontrés, sur lesquels vous avez travaillé et qui ont ensuite permis à la Russie d'influencer finalement la France ?
Le renseignement, c'est comme la pêche qui est interdite. On prend un énorme filet et on prend tout ce qui traîne. Ça, c'est interdit normalement pour la pêche, parce qu'on ne doit pas prendre tout ce qui traîne. Le renseignement, c'est ça. Ça veut dire on prend tout ce qui traîne et après on va trier. Et donc du coup,
alors si on trie dans ce que vous avez apporté à la Russie, qu'est-ce que vous retiendriez qui a vraiment servi?
J'en sais rien parce que si vous voulez, quand on pêche sur le terrain, on transfère après au centre, et c'est le service spécialisé d'analyse, et en plus nos officiers traitants au centre qui traitent tout ça.
C'est cloisonné.
On ne sait pas ce que advient notre information, mais de toute façon, n'importe quelle information sur l'ENA était de l'or.
Mais il y a aussi les Jeux Olympiques d'Albertville en 92 que vous avez infiltré, puisque vous avez réussi à décrocher, on vous l'a proposé, mais un poste d'interprète. Là aussi, alors vous expliquez que vous avez pu travailler, enfin observer le système d'intelligence artificielle. Alors à l'époque, c'était pas ce qu'on entend aujourd'hui, enfin c'était pas les mêmes possibilités, mais le système de sécurité des JO, qui était encore balbutiant, ce système-là en URSS, c'est la société Bull qui le fabriquait. Donc vous avez cherché du renseignement là-dessus.
Bah bien sûr, on cherche le renseignement partout. Vous avez dit, j'étais interprète. Je n'étais pas interprète, le simple interprète. J'étais accompagnateur, interprète personnel du vice-président du CIO.
Russe.
Oui. Monsieur Vitaly Smirnov. Ça veut dire que mon badge avait accès partout. Et bien évidemment, quand il y avait des rencontres, il y avait le préfet Proutot, qui était responsable du centre de sécurité pendant les JO. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce qu'on s'est rencontrés là récemment, et vont certainement encore faire quelques plateaux pour parler de cette histoire.
Vous utilisez, pour transmettre vos renseignements, vous racontez du carbone chimique. Alors, qu'est-ce que c'est du carbone chimique? Et vous avez un mystérieux correspondant en Bretagne, c'est-à-dire qu'il y avait un autre agent russe qui se trouvait en Bretagne, avec lequel vous correspondiez?
Les moyens de communication sont multiples. Vous pouvez avoir un poste émetteur radio. Là, c'était pas le cas parce que si vous êtes pris, là, c'est vous êtes tout de suite classé comme un espion. Après, on peut vous donner quelques adresses, quelques contacts, et on peut vous donner un moyen de communication qui est le carbone, le fameux carbone chimique. Ça veut dire que c'est une page qui est imbibée d'une matière chimique qui est unique à vous. Vous l'utilisez comme une carbone. Après, vous effacez toutes les traces physiques d'écriture sur le papier. Je ne vais pas rentrer dans le détail.
Et vous envoyez ça en Bretagne.
Et par-dessus, vous écrivez un texte et vous envoyez ça à une adresse. Ça peut être en Bretagne, ça peut être en Suisse.
Vous le connaissiez, votre correspondant?
Non, vous ne connaissez jamais personne, ouais. Parce que moins vous connaissez de monde pour faire les liaisons, plus vous êtes en sécurité. Parce que le danger pour le service, c'est la liaison.
Ouais. Alors, on va terminer parce que le temps, malheureusement, nous est compté. Racontez-nous en quelques mots, pourquoi vous êtes tombé en disgrâce? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que, justement, à un moment donné, vous avez été, vous pensez avoir été victime d'une tentative d'empoisonnement?
J'ai quitté très très bien, très convenablement le service. Je suis rentré dans la vie civile et je commençais à recevoir des Russes fortunés en Suisse pour leur ouvrir des comptes, pour les accompagner, pour faire interprète. Et à un moment donné, quand vous rentrez là-dedans, vous commencez à avoir des informations ultra secrètes. Donc, quand vous possédez tout ça, les services sont inquiets. Donc, ils m'ont proposé de re-rentrer dans les services. J'ai pas voulu. Ils ont fait pression sur moi. Et pour me débarrasser de cette pression, il fallait que je fasse mon coming out, en quelque sorte. Et je l'ai fait. Et donc, ça a provoqué un clash entre moi et les services.
Et donc, c'est le début de la fin. Vous quittez ensuite la Russie. Vous êtes filé. Enfin, il y a tout un suspense dans votre départ. On se croirait dans un roman d'espionnage, c'est le cas de le dire. Et vous arrivez en France. Au bout de 2 ans, on vous donne l'asile. Et vous y êtes toujours aujourd'hui. Merci, Sergueï Girnov. Alors, je rappelle que votre livre s'intitule L'éclaireur. Je précise qu'il est édité chez Nimrod. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique et à la technique, il y avait Nicolas Delmas. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.